Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
Il a accepté l'invitation et j'en suis ravie. Félix Leto avec nous. Bonjour Félix.
Bonjour Betty.
Vous êtes réalisateur et vous nous avez fait un beau cadeau qui est le documentaire Corbier, des traces dans la mémoire des masses. Documentaire disponible dans les salles de cinéma et surtout au Saint-André-des-Arts. On espère qu'il va pouvoir aussi un peu plus voyager. Donc au Saint-André-des-Arts, le cinéma du côté de Paris.
De Saint-Michel, voilà,
Saint-Michel
latin.
Pour tous nos auditeurs qui sont par là ou qui vont passer par là, puisqu'il va rester un petit moment quand même.
Il va être diffusé là pendant une dizaine de jours encore, tous les jours à 13h. Et après, il y aura deux séances de rattrapage les 7 et 14 novembre.
Alors, je vous propose d'écouter la bande-annonce, justement, de Corbier, des traces dans la mémoire des masses.
Et je me mets à écrire des chansons. D'abord, j'écoute la radio, j'entends Brassens, j'entends Félix Leclerc. Ça me plaît beaucoup. J'achète 2-3 partitions. Comme je connais les chansons, je regarde la partition et je vois les accords.
C'est ta vie, les gars, elle est comme ça. Et ma vie, c'est pas du nougat.
Hey, on y va.
J'ai connu celui qu'on appelait à l'époque François Corbier.
Et c'est absolument minable comme histoire, mais vraiment minable. Mais tant pis, je le raconte quand même.
Bonjour, comment tu t'appelles ?
Félix.
Bonjour Félix.
Elle est comme ça. Et ma vie, c'est pas du nougat.
François Corbier, un instant, et c'était la bande-annonce de Corbier, des traces dans la mémoire. Documentaire coup de cœur de la séance live, à découvrir donc Félix Leto, le réalisateur qui est avec nous. Félix, Corbier, on le connaît, enfin une grande partie voilà, des auditeurs, et connaît François Corbier pour ses pitreries donc aux côtés de Club Dorothée, mais c'était aussi un artiste à part entière, un chansonnier, et on le découvre comme ça tout au long de ce documentaire. Moi, vraiment, j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses sur lui.
Merci.
Comment est née l'envie, justement, de faire ce documentaire ?
Bah moi, j'étais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis trentenaire, donc je fais partie de la cible, comme on dit élégamment. C'est-à-dire que j'étais devant ma télé quand j'étais enfant, et je regardais le Club Dorothée. Et déjà, j'aimais beaucoup Corbier, au-delà de son simple personnage, j'aimais aussi le chanteur. Et je me souviens même que à chaque fois que je regardais une émission du mercredi après-midi, parce que je crois que c'était celle-ci où il y avait beaucoup de chansons, à chaque fois je regrettais que Corbier vienne pas en pousser une petite. Et c'est vrai qu'il était assez peu...
Il n'y en avait pas assez pour vous, c'est
ouais,
ça ?
Voilà, il n'y en avait pas assez pour moi. Et donc déjà, à l'époque, j'aimais plus le chansonnier, à la limite, que le barbu qui se prenait des tartes à la crème et des chasses d'eau sur le nez, quoi. C'est plus ça qui m'intéressait chez lui. Et je pense d'ailleurs que je suis arrivé au Club Dorothée parce que quand j'étais tout petit, qu'on partait en vacances, mes parents m'avaient acheté une cassette à mettre dans la voiture pour me faire patienter, une cassette dans laquelle il y avait plusieurs artistes de la galaxie Dorothée, on va dire. Et pour moi, la meilleure chanson, celle que je préférais, c'était évidemment Le Nez de Dorothée. Donc, et je pense que c'est à partir de là que j'ai été vers les émissions. Finalement, c'est par cette chanson, finalement, et par Corbier, qu'après j'ai aimé Dorothée, etc. Mais disons que c'est vraiment, même étant enfant, j'étais déjà attiré par le chanteur, le chansonnier.
Qu'il était, en fait.
Pour enfant qu'il était, voilà.
C'est lui qui vous a c'est en le regardant lui que vous avez eu envie de faire la suite.
Et alors donc après on arrête de regarder le Club Dorothée quand
ah
on
bon
grandit.
Non.
Et puis voilà, alors j'avais déjà entendu parler de lui et entendu quelques chansons, je me souviens au lycée je patientais entre deux épreuves du bac. J'avais un de mes très bons amis qui avait un des premiers lecteurs MP3 portable et qui avait trouvé des chansons de Corbier qui venaient de sortir. Donc voilà, c'est là, donc quand j'avais 17 ans, que j'ai eu des nouvelles de Corbier, de ce qu'il faisait, et je trouve ça déjà très bien. Et puis, il y a quelques années, c'était précisément fin 2010, je suis tombé un peu par hasard sur une prestation de Corbier télévisuelle. Enfin, voilà. C'était une captation d'un concert à Bercy.
Le hasard.
Voilà, justement, un concert nostalgie autour de Dorothée, où il n'y avait pas que Dorothée, donc ils avaient un peu rameuté toutes les personnes qui gravitaient autour d'elle à l'époque, dont
Vous
Corbier.
Étiez au concert ou...
Non, moi, j'étais pas au concert, j'ai pas été jusque-là, mais voilà, d'autant que je suis pas parisien, je suis lillois, donc j'avais pas fait le voyage exprès, mais j'avais regardé la rediffusion sur à la télévision, je crois que c'était sur IDF1. Et donc, c'est vrai que j'ai été... le concert a été très long et mon attention est remontée très vivement quand Corbier est apparu sur scène. Et bien sûr, il a chanté Le nez de Dorothée, il pouvait pas faire autrement. Mais il a surtout chanté une autre chanson de son nouveau répertoire qui s'appelle La Galère Capitaine, qui est à la fois une chanson de son nouveau répertoire, mais aussi une chanson qui parle de ses souvenirs de la télévision et surtout du moment où on quitte la télévision. Et voilà, toute la chanson,
on retourne un petit peu dans l'ombre.
C'est ça, c'est comment on quitte la galère, quoi. Comme il le chante dans cette chanson. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'il se retrouve pour cette chanson tout seul avec sa guitare face à la foule de Bercy. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse, quoi. Soit il est très bon et il arrive à capter tout le monde, soit, ce sera un peu raté. Et la chanson est vraiment formidable. Lui, il a ce talent pour capter tout le monde. Et je me suis dit, non seulement sa prestation est magnifique, la chanson est bien, mais en écoutant le texte et en voyant ce personnage se dessinant au-delà de ce qu'il était dans mes souvenirs d'enfant, je me dis, c'est quand même dommage qu'on ait que ça comme image de lui. C'est-à-dire que voilà, le jeu de la BC, les tartes à la crème, les chasses d'eau, où il faisait le crétin, sûrement avec beaucoup de plaisir et avec du plaisir aussi pour nous à le regarder. Mais je me dis quand même, il a continué après, hein, il a eu le courage de reprendre la route, de reprendre
avant, et avant Dorothée aussi.
Et ça a été ça. Après, voilà, je me suis un peu intéressé à lui. J'ai su qu'il avait fait le tour des cabarets parisiens avant d'arriver à la télévision. Et je me suis dit, il a une vie qui mérite d'être racontée. C'est un artiste qui mérite, dont on doit dresser le portrait et qu'on doit connaître autrement que par cette empreinte cathodique que tout le monde a et qui est en fait très faussée par rapport à ce qu'il est vraiment, quoi.
Et c'est là quand c'est de cette captation que vous avez regardée que vous est venue l'idée de faire le documentaire.
Oui, voilà.
J'ai regardé la captation et je me suis renseigné un peu plus sur lui.
Alors, j'ai regardé la captation et je me suis un peu plus renseigné sur lui et je l'ai assez rapidement contacté parce que j'avais cette intuition qu'il fallait faire ce film pour connaître autre chose de lui.
C'était viscéral alors. C'était une envie viscérale.
C'est ça. Et puis on était aussi à une période où on commençait sévèrement à se orienter vers la nostalgie parce qu'il y avait déjà eu la tournée pour les gens des années 60 H-Tendre. On s'orientait. Il y avait le truc des années 80 qui arrivait. Et je me suis dit à tous les coups on va avoir le revival Club Dorothée. Ça manquait pas. Et je me dis à ce moment-là quand on va revoir des images de Corbier, on va entendre parler que de ça, quoi. Et je me dis, il faut prendre un peu faut prendre un peu le contre-pied de tout ça et faire un documentaire, pas avoir peur de faire un documentaire assez conséquent et viser le long métrage pour avoir le temps de parler de lui, quoi. Ce qui est quelque chose, prendre le temps, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire à la télévision. On a plutôt tendance à reproduire les images qu'on connaît déjà, quoi. Donc voilà, je suis parti avec ma caméra, je l'ai rencontré très rapidement parce que ce concert.
Mais alors, attendez, parce que Corbier, il a quand même bercé tout le monde. Comment on fait pour contacter François Corbier? On lui écrit?
On lui écrit, tout simplement.
On trouve son adresse où? Ça, c'est mes sources, c'est ça?
Même pas, parce que ça a été très simple. Enfin, tout ce documentaire a été simple à monter au niveau des gens que j'ai eu à rencontrer. Et la première personne intéressée, c'était quand même François Corbier. À l'époque, il avait un site internet, qu'il a toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, à l'époque, sur son site, il y avait une page contact, comme il y en a beaucoup sur les sites. Sauf que d'habitude, quand on écrit un mail sur cette page contact, personne vous répond, quoi. Sauf que là, quelqu'un m'a répondu. Et c'était François Corbier lui-même. Et qui m'a dit, pas de problème, rencontrons-nous et puis on verra bien, quoi.
Vous lui avez dit, j'ai envie de faire un documentaire sur vous.
Voilà, c'est ça. Tout simplement.
Waouh.
Il a dit oui. Je pense qu'il pense, enfin, il croyait que ça allait être juste un petit reportage, quoi. Enfin voilà, ça lui posait pas de problème en tout cas qu'on se rende compte et que je vienne avec ma caméra.
Ah, vous êtes venu directement avec la caméra,
oui,
même voilà. Pas vous lui expliquer.
Bah oui,
même pas une première rencontre sans caméra.
Non, parce qu'il s'est trouvé que cette première rencontre s'est faite au cours d'un concert pas très loin de chez moi, donc j'habite à Lille et il y avait un concert à Lens. Et du coup, ça a été l'occasion de le rencontrer. Et puis assez rapidement, puisque ce concert, c'était en janvier 2011, donc très peu de temps après le concert que j'avais vu à la télé. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais venir tout de suite avec ma caméra. Il a accepté, on s'est rencontrés. Et puis voilà, après, j'ai pas arrêté, quoi.
Et du coup, vous l'avez suivi partout. C'est ce qu'on découvre dans ce documentaire. 2011, donc ça date quand même.
Ça date.
Travail.
Alors après, j'ai pas fait que ça pendant 6 ans. C'est un documentaire que, bon, comment dirais-je, je l'ai monté de façon indépendante parce que c'est ma façon de travailler depuis le début, enfin depuis que j'ai monté ma boîte de production indépendante qui s'appelle Xylef Productions. Et ça me permet justement de monter des projets un peu fous et de façon complètement loufoque par rapport à l'organisation, enfin aux productions habituelles.
D'accord. Du coup, documentaire. Il y a eu un petit financement participatif.
Voilà, à un moment, j'ai dû faire appel à un financement participatif parce que bon, j'avais quand même besoin d'un peu de moyens pour le terminer. Et c'est ça qui m'a permis aussi de le faire sur plus de 6 ans. Et même si je l'ai pas suivi à temps plein pendant 6 ans, ça me permettait aussi d'avoir des longues pauses où je ne pensais plus, enfin où j'étais plus occupé que par le documentaire et ça me permettait voilà de prendre du recul
laisser
aussi
décanter, c'est
par
ça
rapport à lui voilà etc. Et puis ça m'a permis, et ça je l'assume très bien et je le montre aussi dans le film, ça m'a permis aussi de me rapprocher de lui et au-delà de la rencontre artistico-professionnelle, il y a une rencontre aussi humaine et voilà, on est devenu amis quoi, en tout cas proches et ça je le fais ressentir dans le film parce que je pense que c'est important aussi d'être honnête et de qu'on sente que la personne qui filme le sujet est plutôt prise de respect et de sympathie pour le
vaut mieux,
et, voire
vaut
même
mieux
d'amitié
pour
voilà. Non, je pense que c'est quelque chose que j'assume aussi de que ce soit à la fois le documentaire d'un admirateur et aussi de quelque part du proche que je suis devenu au fil du temps quoi.
Et alors du coup quand vous êtes, on remonte à 2011, vous le rencontrez, comment vous lui expliquez que vous voulez faire le documentaire, c'est quoi les mots pour le convaincre? Ou il avait déjà, lui il avait dit oui, donc ça y revenait pas en arrière, ou il avait besoin de savoir bah voilà, vous avez besoin de contacter qui, vous aviez déjà une trame? Ou pas du tout, c'est venu
non,
au
non,
fur et à
mesure
des
rencontres. Partais vraiment. Enfin, moi, je suis assez. Quand je fais des documentaires, je pars plutôt dans un concept immersif, c'est-à-dire que je n'écris pas trop à l'avance ce que je veux faire, et je suis plutôt à essayer de capter des choses et de ce que je capte, je réajuste ou je réoriente au fur et à mesure en fonction de ce que j'aurais filmé. Donc, il n'y avait pas de trame. Spécialement qui était préécrite. Après, ce que je lui ai dit, je lui ai pas dit grand chose. Ce que je lui ai fait comprendre surtout, c'est que je ne voulais pas faire un documentaire sur Corbier du Club Dorothée,
mais de l'artiste lui-même.
Voilà, mais tout en lui disant que je voulais être aussi honnête, c'est-à-dire que je ne voulais pas tomber dans l'excès inverse de ce que je reproche aux autres, c'est-à-dire que je ne voulais pas effacer non plus le côté télé, Récréa 2 et Club Dorothée, quoi. Mais globalement, mon ambition, et c'est ce que j'ai réussi à faire dans le film, et de façon même assez pragmatique, si on chronomètre le montage du film, la partie télé, ça doit faire à peu près un tiers du film, comme ça fait à peu près un tiers de sa vie, quoi. Disons que le premier tiers de sa vie c'est le cabaret, le deuxième tiers.
Les images de Lina, c'est magnifique ce
oui,
que vous
voilà.
avez trouvé. Ça vous a demandé combien de temps de recherche justement?
Oh bah c'était là aussi c'est pareil, ça a été assez participatif et en fonction des rencontres et là je dois remercier quelqu'un qui est dans le documentaire, qui est un ami de longue date de Corbier et qui est chansonnier, c'est Serge Liado que j'ai donc rencontré pour l'interviewer et puis Serge fait aussi beaucoup de recherches en fait de documents sur Lina et je dois dire que la majeure partie des images que j'ai trouvé qui sont dans le documentaire, c'est grâce à Serge qui m'a aiguillé, qui m'en a indiqué certaines, parce que c'était assez dur à trouver, parce que en plus quand j'ai commencé le documentaire, Lina était encore un peu en refondation, donc au niveau moteur de recherche c'était assez compliqué, d'autant plus que Corbier, avant de s'appeler Corbier, s'appelait Alain Roux, et sa toute première télé il a fait sous ce nom là donc c'était un peu impossible à trouver comme ça de façon
sans
intuitive,
sans être guidé.
Et c'est vrai que Serge m'a un peu aidé là-dessus.
Mais du coup Serge, vous l'avez rencontré grâce à Corbier?
Voilà, tout à fait.
C'est une des premières personnes dont il a pensé à vous faire
Après Corbier, il a jamais craché sur la période télé, et la preuve c'est que quand la première fois que je l'ai rencontré, il a énuméré les personnes dont il pouvait me passer le contact directement ou appeler pour que je sois recontacté.
Quoi? Vous avez le numéro de téléphone de Dorothée?
Non, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, je peux te mettre en relation avec Dorothée, mais il n'y a que Dorothée qui pourra te donner son numéro.
Ah, c'est bien.
Mais voilà, ça a été, il m'a tout de suite dit, si tu veux Dorothée, si tu veux Jackie, etc., il n'y a pas de problème. Et puis il m'a dit, après, il y a d'autres personnes comme Serge Liado, comme Léandri, son un ami d'encore plus longue date, puisqu'ils se sont connus au tout début de leur carrière, quand ils faisaient le con tous les deux au Club Méditerranée. Donc Léandri, qui est l'auteur de Fluide Glacial. Enfin voilà, toute une galaxie de gens qui sont assez différents. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que c'est quelque part en toile de fond, c'est aussi un peu un documentaire sur la tolérance, quoi, parce que finalement Corbier, il a côtoyé, il est ami avec des gens qui vont des milieux anards aux pontes de la télévision commerciale. Donc bon voilà, c'est il se rend compte qu'on peut toujours trouver des accroches avec tout le monde. Il suffit de pas insulter les gens et puis de rester ouvert et à l'écoute, quoi.
Quand vous avez commencé à tourner, comment vous vous êtes senti? L'enfant qui était Félix, il s'est senti comment? Mais attends, je suis vraiment en train de tourner avec Corbier.
C'était assez bizarre. Je me souviens des toutes premières interviews, oui, j'étais peut-être un peu fébrile parce que j'étais impressionné tout simplement. Mmh. Et puis voilà, c'était aussi, c'était aussi le début du documentaire, donc voilà, comme je suis assez traqueur, de toute façon,
tout va bien.
C'est toujours quand on commence quelque chose, il faut le temps de se chauffer. Donc effectivement, oui, j'étais impressionné, mais en fait très vite, il est tellement généreux et sympathique qu'en fait c'est plus, j'avais plus besoin de me dire, mais je suis en train de tourner avec Corbier, enfin j'ai Corbier en face de moi, alors que voilà, finalement j'avais un homme tout à fait normal. Et c'est vrai que je me souviens, la première interview, j'ai passé plusieurs heures à tourner, à faire une longue interview chez lui dans son salon. Et c'est vrai qu'en repartant sur la route, je me suis dit, je viens de passer l'après-midi avec Corbier. Et mis à part les premières minutes où j'étais un peu impressionné, après c'est... Enfin voilà, c'est,
vous aviez l'impression de parler à un pote, quoi.
Ouais, voilà, ça coulait.
On va faire une petite pause musicale, puisque le vendredi aussi sur Séance Radio, dans la séance live, c'est la séance à la demande. C'est une demande de Marine Léa Netto qui nous demande Vaiana, la légende du bout du monde, et on revient juste après.
Le bleu du ciel, pas le bleu de la mer, ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. J'aimerais tant rester fidèle à ma terre, oublier le vent éphémère, j'ai essayé tant de fois. J'ai beau dire je reste, je ne partirai pas. Chacun de mes gestes, chacun de mes pas me ramène sans cesse, malgré les promesses, vers ce bleu lumière. L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle cache un trésor que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle le bleu de l'eau. Si je pars, j'irai plus loin et toujours plus haut. Il faut aimer mon île et son histoire pour ceux qui veulent encore y croire, oublier le temps qui passe. Il faut aimer mon île et son histoire, et garder encore l'espoir, un jour je trouverai ma place. Je veux les guider, les rendre plus grands, les accompagner, je prendrai le temps, mais cette voix cachée passe tout autrement. Je ne comprends pas. Le soleil vient danser sur la mer éternelle, et tout si vieux, ses reflets d'or. En m'attend sous un tapis de lumière, la mer m'appelle. Moi je veux voir derrière les nuages de nouveaux rivages, l'horizon.
Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
L'actualité du cinéma, c'est bien sûr les films à ne pas manquer dans les salles de cinéma depuis mercredi et ses coups de cœur de la séance live de cette semaine. Corbier, des traces dans la mémoire des masses, un documentaire à voir absolument, signé Félix Leto, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et voilà, et qui par passion de cet homme-là, en fait, c'est une sorte de passion,
oui,
quelque part.
Oui, vraiment, enfin, c'était...
Cet artiste, François Corbier. Hein.
Voilà, l'idée de le faire découvrir un peu comme moi je l'ai découvert autrement que par l'image qu'on en avait, que le grand public en avait de l'homme de télévision, quoi, en quelque sorte.
C'est un homme sensible et on découvre que c'est un homme sensible, là, qui essaie juste de faire rire avec ses chansons, en fait.
Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a l'élégance de l'humour, on va dire. C'est que il arrive à parler de sujets qui sont souvent atroces, mais en réussissant à y mettre, y mettre de l'humour sans. Alors à la fois il réussit à désamorcer, mais en même temps il nous laisse conscients des problèmes qu'il dépeint dans ses chansons, quoi. Et donc c'est quelqu'un de très talentueux pour ça. Et d'ailleurs, puis après, il a aussi des chansons qui sont juste drôles, quoi.
Oui, c'est vrai.
Il a des chansons sérieuses, des chansons drôles et des chansons drôles et sérieuses, quoi.
Il y a un moment très émouvant, sur un de ses amis, donc qui était bien sûr.
Cabu, ouais. Cabu, il parle de Cabu et c'est. Dans cet extrait, en fait, c'est au moment où on parle de Récréa 2, donc forcément, on est obligé d'évoquer Cabu, donc qui s'est fait assassiner dans les attentats que tout le monde connaît. Et c'est vrai que pour Corbier, c'était il perd en plus un ami. Et c'est vrai qu'il avait écrit en plus une chanson quelques années avant qui s'appelle Pour Dieu, qui parle de ce fanatisme religieux et qui est vraiment une très belle chanson.
Qu'on va écouter justement.
Qu'on va écouter,
tout de
voilà,
suite.
Et qui est extrait du documentaire.
Et c'est pour Dieu que naît le crime. Sur ses autels goûte le sang. C'est en son nom qu'on assassine. Que s'allument les feux ardents. Pour Dieu la plaie et la gangrène. Pour Dieu le fouet, le poing, le clou. Pour Dieu la pierre. Pour Dieu la haine. Le crachat, l'offense, les coups. Pour Dieu, ainsi soit-il. Voici le juste emprisonné. Voici les enfants. Voici les femmes bâillonnées. Voici la peur, voici les larmes. Voici les gibets, les garrots. Et sous les cris, dans le vacarme. Voici les bouchers, les bourreaux.
Les croyants qui vont tuer au nom de Dieu sont pour moi des malades mentaux, quels qu'ils soient, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient mohammedans, comme on dit ça quand j'étais gosse.
Voici les prêtres remplis de zèle, bras lourds de cordes et de fusils.
Les gars qui font des attentats et tout, c'est quoi? C'est des petits malfrats merdeux. Ils n'ont même pas été fichus de cambrioler la Banque de France. Ce sont des cons. Tous ces gens-là sont des cons, des médiocres. C'est rien. Et on en fait des drames parce qu'il y a eu beaucoup de morts et c'est normal donc d'en parler beaucoup. Mais que des hommes politiques se servent de ça pour se grandir, pour gonfler, pour... Ces gens-là, je les aime pas non plus.
C'est en son nom qu'on l'assassine.
Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
C'est la séance live, c'est jusqu'à 17h à l'instant. C'était une chanson de François Corbier, pour extrait d'ailleurs du documentaire à ne pas manquer dans les salles de cinéma. Coup de cœur de la séance live, Corbier, des traces dans la mémoire des masses grâce à Félix Leto. On découvre cet artiste étonnant et il nous fait le plaisir d'être avec nous et avec Félix. Félix, on accueille tout de suite monsieur François Corbier, bonjour.
Bonjour, bonne année.
Bonne année, oui.
Salut François, tu vas bien depuis hier?
Ouais, mon Félix, ça va bien. Je t'ai épuisé hier quand je suis rentré. Dis donc, la circulation, ça a été une horreur.
Non, on n'a pas eu de chance.
Je t'en veux à mort.
Désolé, mon Corbier.
Vous étiez à la projection?
Oui, et puis on a eu... on faisait une autre émission de télé à l'autre bout de Paris. On a dû retraverser. Et voilà, c'était la catastrophe
c'était
quand on est en voiture.
Épuisant, ouais. Voilà. C'est épuisant.
Merci d'être avec nous.
Je t'en veux moins qu'à Madame Hidalgo quand même, parce que là, c'est elle, tu vois, c'est elle, moi je l'ai vue, elle était partout avec des marteaux piqueurs, tu as vu ça?
Oui, j'ai vu.
Je n'invente rien.
François, c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Moi aussi, je suis un peu comme la génération de Félix. Vous m'avez bien fait marrer quand j'étais petite. Je découvre surtout un artiste complet, un artiste sensible, grâce à ce documentaire, à vos chansons, à vos talents dans les textes. On a écouté d'ailleurs justement
Pour Dieu
à l'instant. Quand Félix est venu vous voir. Quand il vous a écrit déjà le petit mot via le site, hein, c'est ce qu'il nous a expliqué.
Oui, c'est ça, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, oui.
Vous lui avez dit oui tout de suite?
Oui, je lui ai dit oui, et je lui ai dit, tu sais, ça va être difficile parce que réaliser un document sur moi, et je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens. C'est pas que je sois pessimiste naturellement, au contraire, je suis plutôt un type avec très très envie de plein de choses et tout ça, et très optimiste, mais je me disais, mais faire un documentaire sur moi, je ne sais pas si c'est bien, quoi. Et puis le fait qu'il ait réussi à réaliser ce documentaire, t'as mis combien, 6 ans, 7 ans?
Voilà, c'est ça.
C'est terrible, c'est formidable. J'étais extrêmement flatté, et quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'a... ça m'a tiré des larmes, c'est vrai. Je veux pas dire que c'est un film pleurnichard, au contraire, il est très rigolo. Mais ça m'a fait drôle, quoi.
Est-ce qu'il y a des images que vous aviez pas vues depuis longtemps? Que vous avez revu?
Pratiquement toutes. Il y a même des documents qui datent d'avant que je rentre officiellement à la télévision, puisqu'il y a un document où je suis avec André Roussin, qui était de l'Académie française. André Roussin, que j'avais rencontré à Buenos Aires, et qui m'avait dit, si vous rentrez en France, je n'ai jamais voulu faire de télévision, mais pour vous, j'accepterai d'en faire une, et comme ça je dirai au monde comme vous m'avez fait rire. Et voilà. Et
oui, donc du coup ces images à l'époque, vous les aviez pas vues, il n'y avait pas de replay comme aujourd'hui.
Oui, c'est ça, ouais. Je les connaissais, je les avais en mémoire, mais pas comme ça, quoi. C'est très touchant de voir ce jeune maigrichon en train de chanter une bêtise, c'est beau, quoi, c'est bien.
Vous avez également votre fils qui intervient dans le documentaire de Félix, très touchant. Il a des mots d'amour pour vous, énormes, tel un fils qui a été baigné dans l'amour de son père et qui nous raconte que vous lui disiez, surtout tu dis pas que je vais passer à la télé. Parce qu'on ne sait pas si ça va rester.
Oui, non, mais parce que je connais les enfants. Je sais que les enfants sont des tyrans les uns envers les autres. Et je m'étais dit, si il dit, ouais, mon papa, il fait de la télévision, si jamais un jour, il tombe sur des plus costauds que lui, on va lui dire, ben dis donc, ton père, il passe plus à la télévision, il a été lourdé, t'es un connard. Et des choses comme ça qui auraient pu le traumatiser. Donc, je dis, tu dis rien. Tu dis rien. Et il a jamais rien dit. Et il a bien fait.
Qu'est-ce qui vous a le plus ému, au-delà des images et des choses? Est-ce que ce sont tous vos amis qui ont participé également au documentaire et qui ont dit peut-être des choses qui ne vous l'avaient pas dit en face?
Oui, ça m'a beaucoup touché. Je l'ai dit à Dorothée, qui dit un petit truc très gentil dans le document. Je l'ai dit aussi à mon vieux copain de cabaret, Serge Liado. Serge Liado qui a longtemps travaillé sur une autre chaîne de radio importante avec Ruquier. Et je leur ai dit à tous les deux, c'est extrêmement touchant de savoir que des gens avec qui on a travaillé me gardent un peu d'amitié et puis ont envie de le dire devant une caméra. J'ai trouvé ça très fort, quoi. Vraiment, ça m'a un peu noué. Bon, voilà.
Et ça donne envie aussi de continuer. Et puis surtout, vous continuez la musique, vous continuez à être sur les routes.
Oui, chaque fois que je peux encore. J'espère que ça pourra encore durer longtemps. Mais c'est ma vie. J'ai passé ma vie à cavaler d'un endroit à l'autre. Alors bon, il n'y a pas de raison de que ça s'arrête comme ça d'un seul coup.
Vous êtes comme le bambou, vous pliez mais vous cassez jamais.
Bravo, vous avez étudié La Fontaine, vous? C'est pas un bambou, c'est un roseau, mais c'est pareil.
Oui, c'est vrai, c'est pareil. Du moment que je retiens le petit livre bleu, ce fameux petit livre bleu.
Ah, ça c'est magnifique, le petit livre bleu. Vous voulez que je vous parle du petit livre?
Mais oui, un petit peu. Dites-nous tout.
Voilà, pendant des années avant de faire de la télévision, j'ai gagné ma croûte en écrivant ce qu'on appelle des chansons flash. C'est-à-dire des chansons extrêmement courtes qui ont quatre vers en général, mais ça peut être moins encore, ça peut être simplement un mot, voire une syllabe, voire un cri. Donc j'ai fait ça, et puis comme beaucoup de personnes me demandaient de faire un disque avec ces chansons-là, je trouve pas que ce soit très utile de faire un disque, mais j'ai pensé que c'était peut-être bien de faire un petit recueil. Donc j'ai fait le petit livre bleu dans lequel il y a toutes ces chansons flash. Par exemple, chanson du pompier en train de repeindre un pont. Pimpon, voilà, c'est fini.
Et on peut en se faire plaisir, et ça va être Noël en plus, donc on peut doublement se faire plaisir et aller découvrir le...
Ouais, sur ton site, on peut trouver le livre, je crois.
Oui, sur mon site. Mais il n'y a que là qu'on peut trouver d'ailleurs tout ce que je fais, mes disques, mes bouquins, on les trouve nulle part ailleurs.
FrançoisCorbier.com, si je ne m'abuse.
Mais tu ne t'abuses pas, mon garçon.
Un peu de pub ne fait jamais de mal.
Mais bien sûr.
En tout cas, au plaisir de vous avoir ici, en chair et en os, la prochaine fois, pour le best-of, tiens, de tous les invités de la saison. Voilà, avec votre guitare, et ce sera un grand plaisir de vous avoir ici.
Je viendrai avec plaisir. Vous avez mon téléphone, il vous suffit de m'appeler, de me proposer une date. Et vous êtes où?
Mais nous, on est sur Séance Radio, on est sur Paris. Donc voilà, on
Paris,
vous donnera tout.
Non, parce que vous auriez pu être, je sais pas, moi, à Buenos Aires ou...
Non, mais la chaleur du studio ici, c'est la même. C'est la même. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct. Et encore bravo de n'avoir rien lâché et de nous avoir donné avec autant de bienveillance une partie de votre cœur quelque part, dans toutes vos chansons.
C'est moi qui vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée, une belle soirée et youpi, bonne nuit.
Salut,
à bientôt
Corbier.
Sur Séance Radio.
Salut.
Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
êtes sur Séance Radio, c'est la séance live et c'est aussi la séance à la demande du vendredi entre 16h et 17h. À l'instant, le titre Limitless, le thème du film réalisé par Paul Leonard Morgan. C'était une demande de Romain MDD, voilà, pour Diablo. Merci à tous et à toutes de votre fidélité à Séance Radio et à la séance à la demande du vendredi entre 16h et 17h. Vous choisissez donc votre musique. Nous aussi, on va la choisir, la nôtre, puisque ce sera une musique à nouveau de Corbier pour tout à l'heure pour le coup de cœur de la séance live de ce mercredi à découvrir au Saint-André-des-Arts si vous êtes du côté de Paris. Corbier des traces dans la mémoire des masses sur grand écran à découvrir. Félix Leto qui est toujours avec nous, le réalisateur. Félix, on a eu le plaisir d'avoir François Corbier quand même au téléphone. Si on m'avait dit, je l'aurais pas cru. Franchement. Si on m'avait dit qu'un jour je parlerais à François Corbier, je l'aurais pas cru. J'imagine.
C'est pourtant
que
simple, il suffit de l'appeler.
Bah, bien sûr, bah voilà. Et vous alors, parce qu'après il y a eu aussi Dorothée que vous rencontrez. Quand même, ça doit faire quelque chose.
Bah c'est pareil, oui. Quand,
Jackie aussi.
Quand on prépare le, quand on prépare le, la salle de l'interview et qu'on commence à entendre une rumeur dans le couloir d'à côté et la voix de Dorothée qui approche, c'est vrai que ça fait quelque chose, ouais. Quand on a été enfant et qu'on s'est passé en boucle les vidéocassettes des différents spectacles à Bercy qu'elle a pu faire, oui, ça fait quelque chose. Et puis bon, c'est toujours pareil quand on rencontre des gens qu'on a apprécié, il y a toujours un trac supplémentaire par rapport au fait d'être déçu en fait de leur personnalité, quoi. Et surtout Dorothée, il y a quand même pas mal d'une espèce de rumeurs de genre, oh, tu vas voir Dorothée, oh, elle doit pas être sympa, tout ça.
Ah bon,
et en fait, bah, je sais pas, enfin, souvent, j'entends des petits trucs comme ça, de gens, bien sûr, qui ne la connaissent pas du tout, hein, c'est le principe. Et au contraire, je pense que c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai pu rencontrer, très simple, et ça, c'est pareil, quand je l'ai contactée pour faire le documentaire, elle a tout de suite répondu oui, et tout de suite présente, ça s'est fait très rapidement. Et pareil, quand je l'ai invitée à la séance, à la première, mercredi. Elle a tout de suite dans l'heure, elle me répondait oui, pas de problème, je serai là. Et voilà, on s'était mis d'accord pour faire la surprise.
Vous avez réussi à réunir toute l'équipe presque.
Bah voilà, parce que.
Jackie était là.
Alors, Jackie, non, on pouvait pas venir parce qu'il a un direct. Il a un direct sur IDF1, et donc du coup, il avait peur de pas arriver à temps à la Plaine Saint-Denis. Mais on,
Ariane.
Mais Ariane est venue aussi, donc oui, c'était.
Ariane n'a pas pu être dans le documentaire.
Elle l'a pas pu parce que je l'ai pas invitée. Alors c'est ce que je lui disais.
D'accord.
Non, mais en plus c'est ce que je lui ai dit. Même si elle m'a rien dit, enfin, elle a été très chaleureuse avec moi, mais je lui ai dit, je lui ai glissé quand on s'est vu à la première mercredi que c'est pas parce que je ne l'aimais pas que je l'avais pas invité à venir témoigner, mais c'est justement dans ce souci d'équité, on va dire, de temps de parole que je m'étais un peu fixé. Je voulais pas qu'il y ait un déséquilibre entre les différentes périodes de la vie de François. Et voilà, comme j'avais déjà à la fois Jackie, qui était un des trois larrons là des trois crétins comme François le dit dans le film. Enfin voilà, j'avais déjà son acolyte, on va dire. Mm-hmm. J'avais Dorothée, voilà, là,
qui représentait toute l'équipe.
Voilà, et puis Jean-Luc Azoulay qui était la tête pensante, le producteur. Je me suis dit voilà, j'ai déjà pas
déjà
mal et je voulais pas qu'il y ait de redites. En fait, je voulais surtout pas tomber dans ce que font la plupart des gens qui font des documentaires de façon un peu feignante, c'est-à-dire qu'on prend une liste de gens, on invite le maximum de personnes, on leur pose à tous la même question, enfin les mêmes questions, et puis après on se contente de sélectionner qui répond le mieux en le moins de temps possible, enfin voilà, et ça donne quelque chose d'un peu plat. Moi j'étais pas parti comme ça, et je m'étais dit j'ai suffisamment de matière avec ces gens-là, et c'est pour ça, voilà, je l'ai dit à Ariane qui comprenait tout à fait, et puis comme elle me disait, en plus elle était pas là dès le début, elle était pas là à récré à deux, donc elle pouvait pas non plus brosser toute la période télévisuelle, elle aurait pu parler que du club Dorothée. Et donc voilà, non, il y avait aucun problème. Et c'est pareil, Ariane, je l'ai invité la veille de la projection. Donc c'était un peu parce que j'ai récupéré son téléphone un peu tard. Et puis c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à l'inviter tout de suite parce que comme elle était pas dans le documentaire, voilà, bon. Et je lui ai envoyé un message et le lendemain à 13h moins le quart, elle m'appelait en disant j'arrive, je serai là. Donc voilà, c'est quand même. J'ai vraiment été déçu par personne en fait en faisant ce documentaire parce que bah, je pense que si Corbier est ami avec des gens, c'est forcément des gens bien.
C'est gentil ça.
Voilà.
Justement en parlant d'amitié, il y a aussi d'autres amitiés. Il nous a parlé de Serge Aliado. Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous avez apprises tout au long du tournage et qui vous ont encore plus ému, encore plus dit c'est vraiment un mec bien?
Alors c'est un peu compliqué parce que ça a duré tellement longtemps le tournage, je ne sais plus ce que j'ai appris à quel moment. Mais je crois que c'est plus le tout premier concert et la toute première rencontre qui m'a enfin dont je garde un souvenir très très ému parce que enfin je sais pas, enfin j'avais vraiment l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, quoi. Ça, c'est un peu bizarre à dire. Enfin, ça paraît très bête, hein, dit comme ça. Mais, vous savez, c'est ces moments où, enfin, voilà, on a vécu un moment. Bon, bah, c'était le soir, donc après, on va se coucher. Et on se réveille le matin avec de bonne humeur et on se sent bien avec l'impression d'avoir rêvé.
Et en fait, on se dit,
c'était pas un rêve, j'y étais, puis avec les chansons qui me revenaient, que j'avais découvert, enfin sa façon de tenir ses spectacles et d'enchaîner ses chansons, d'alterner chansons flash, chansons longues, entrecoupées de sketchs, de lancements toujours drôles. Enfin, c'est vraiment, on passe toujours vraiment un très bon moment avec lui sur scène. Et puis voilà, cette première rencontre, ça a été un peu un tourbillon parce que je suis arrivé, je me souviens, pendant les répétitions, pendant les balances. Et puis il m'a tout de suite dit bah viens on va manger, donc je suis parti manger avec lui.
Et les scènes du concert qu'on voit dans le film, c'est celui-là de concert?
Alors non, il y a juste un tout petit bout qu'on voit parce que j'étais pas, enfin voilà, j'étais quand même venu avec ma caméra, mais j'étais un peu à l'arrache comme on dit, c'est-à-dire que j'avais juste la caméra au point, juste une seule caméra au point, donc j'étais un peu limité, c'était plus des images que je pensais juste insérer en illustration. Et du coup, il y a juste un petit moment, une chanson flash, je crois, qui passe de ce concert.
Et sinon, le concert qu'on voit, c'est...
Le concert qu'on voit, alors il y en a deux qu'on voit principalement. Celui qu'on voit quand même le plus, c'est un concert en 2015 à Waterloo, du côté, enfin, dans la métropole lilloise, quoi. Donc, pas loin de chez moi. Et puis, un autre concert... qui a haï sur Noix, et c'était aussi une belle un beau moment de, enfin une belle journée de tournage, puisque on était venu j'étais venu tourner la journée, parce qu'en fait haï sur Noix, c'est le village dans lequel il a grandi quand il était enfant. Et du coup, enfin, c'est pas Haï-sur-Noix, c'est le village collé à côté qui s'appelle Jumelles. Et du coup je lui avais dit, puisque tu vas là-bas, est-ce qu'on en profiterait pas pour faire une séquence où voilà, tu marches un peu sur les traces de ton enfance et que tu nous parles de ton enfance, et voilà, ça a donné la séquence.
Puis on y apprend plein de choses, ouais, et voilà. Puis il y a son fils, il y a aussi son frère.
Bien sûr,
tout ça à découvrir, en tout cas en allant au cinéma, le Saint-André des Arts, Corbier, des traces dans la mémoire des masses, c'est vraiment le coup de cœur de la séance live à découvrir absolument. Félix, si vous deviez retenir un moment frisson pendant tout ce tournage, même si ça remonte un petit peu à loin, au-delà de la première rencontre, bien sûr, mais je sais pas, un moment où justement, frisson dans le sens où vous avez posé la caméra, il est en train de vous dire quelque chose, waouh, qui n'était pas prévu, quoi, où vous vous attendiez pas. Et qu'il y a eu peut-être le moment où il nous parle de Cabu, ou un autre moment où vous vous dites, mais quand même, il est passé par bien des épreuves, cet artiste, monsieur.
Bah, c'est un peu aussi compliqué à répondre parce qu'il y en a eu beaucoup. Après, je me souviens, la plus longue interview que j'ai faite, effectivement, quand il parle des difficultés de l'après Club Dorothée, c'était assez poignant. Et puis c'est toujours compliqué parce que il est toujours très très sincère, mais sans rajouter de pathos, quoi. Et du coup, des fois, il y a des choses qui vous arrivent un peu en pleine gueule. Et c'est vrai que sur ces moments-là, ouais, je me souviens que c'était assez émouvant. Et puis,
parce qu'il le dit avec du recul aussi maintenant.
Ouais, voilà. Je me souviens de passages qui sont pas forcément, d'un passage précis, mais qui est finalement, je crois que je l'ai pas mis dans le documentaire. Où il parle de sa mère, et c'est, enfin voilà, où on sent que c'était un fils aimant et que c'était déjà un brave garçon, comme on dit.
En tout cas, si on veut en savoir plus sur cet artiste, François Corbier, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, Félix, de nous avoir embarqué dans cette histoire.
Prie.
Merci à François Corbier d'avoir été un petit peu avec nous par téléphone. Corbier, des traces dans la mémoire d'Emma. Si vous voulez en savoir plus sur François, bien sûr, www.françoiscorbier.com. On va surtout au Saint-André-des-Arts, donc les séances,
c'est à 13h, tous les jours, sauf le mardi.
Et puis, on peut vous rencontrer?
Oui, je serai... déjà, on peut se rencontrer toujours au Saint-André-des-Arts, mais je serai aussi chez Gibert Jeune, boulevard Saint-Michel, le 26, c'est ça? Oui, le 26, pour faire une rencontre autour de deux DVD, de films que j'ai fait, qui ont été édités.
Donc, Vente Folie et Quai du Prélude.
Voilà. Et Prélude, il y a quand même un lien sur Vente Folie, qui est mon premier long métrage de fiction. C'est que Corbier fait une apparition dedans. Enfin, c'est même plus qu'une apparition. Il fait une scène entière.
Waouh.
Et voilà. Donc, si vous voulez aussi,
l'aviez connu d'abord là?
En fait, j'ai tourné Vente Folie. Je l'ai tourné au moment où j'avais déjà commencé le documentaire sur Corbier. Quoi.
D'accord, on en apprend des choses. Hein.
Voilà.
voilà. Merci beaucoup, Félix, d'avoir été avec nous. On se quitte avec une chanson, bien sûr, de Corbier.
Ah bah, qui a son importance, puisque c'est celle qui a donné le titre, c'est celle qui a déclenché le documentaire, et c'est celle qui a donné le titre aussi au documentaire. Voilà, et vous comprendrez pourquoi en l'écoutant.
Merci beaucoup, à bientôt sur Séance Radio.
Je vous en prie.
J'ai fait 15 ans durant le pitre sur l'écran, avec la guitare sur le dos pour distraire les marmots. J'avais droit 7 jours par semaine à une tarte à la crème. Mais je n'oublie pas les chasses d'eau pour me laver le museau. Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire? Capitaine, capitaine, pour quitter la galère. Ce job, ça laisse des traces dans la mémoire des masses. Je viens de voir un gamin qui m'a dit « Salut Jackie !» Immédiatement, j'ai rectifié. Moi, mon nom, c'est Corbier. Corbier qui m'a dit « Nom d'un chien ». Dessine vachement bien. Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire? Capitaine, capitaine, pour quitter la galère. Être pris pour Cabu, c'est super, ça m'a plu. Qu'ils me confondent avec Jackie, c'est tout autant exquis, et c'est une chance qu'ils ne m'aient pas pris pour Lady Gaga, et qu'il ne m'ait pas demandé. T'es pas le petit doré? Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire? Capitaine, capitaine, pour quitter la galère. Saint-Denis, la chapelle, torchés comme des queues de pelle. Des punks un soir m'ont encerclé hurlant « T'es les musclés !» J'étais fatigué, j'ai dit non, ils m'ont coupé le chignon. C'est un miracle si j'ai gardé ce que mon père m'a légué. Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire, capitaine, capitaine, pour quitter la galère. Ils m'ont pris en photo, tout nu sur un tonneau. J'ai chanté dans ce naufrage la fête au village. J'ai même fait la danse des canards, la chenille qui redémarre. Et je les ai entendus brailler. Mon gars, tu chantes mieux que Corbier. Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire, capitaine, capitaine, pour quitter la galère. Femme n'était plus là. Elle avait écrit sur la table, en se servant du Scrabble, adieu notre amour est foutu, tu ne me reverras plus. Je pars vivre au Galapagos avec ton copain Carlos. Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire, capitaine, capitaine, et la galère. Au secours d'Arrêter, voudrais-tu m'épouser? Elle m'a dit non, j'aime en secret un poisson japonais, mais je ne suis pas inquiète pour toi, dans l'équipe t'as le choix. Et ton côté viril devrait à Bernard Minet. Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire, capitaine, capitaine, quitter la galère. Sans phare, sans cri, sans rage, sans cracher dans le potage, sans rien renier, sans ressasser les histoires du passé, mais pour amuser les copains avec un petit refrain. Je vous ai chanté mes avatars. J'ai terminé. Bonsoir, capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire, capitaine, capitaine,
de 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.